millionnaire autour de la table ?
Écoute, j'ai l'impression qu'on est sur un 100%.
T'es millionnaire, Léo ?
Moi, je suis l'animateur du podcast. Pas obligé d'exclure des gens.
Manuel,
comme ça.
Est-ce que Léo est millionnaire ?
En vue, oui.
Ah bah oui.
Ah oui, ah, je suis millionnaire, c'est vrai, je suis nouveau millionnaire.
J'allais vous poser la question, c'est quoi un millionnaire ?
Ah ouais, lui, il est complètement con, en fait.
Ah oui, d'accord.
Et à un moment donné...
Attends, j'ai bien fait de pas mettre mon casque. Hein.
Il nous demande notre définition du millionnaire. C'est
bah ouais.
Écoute, le millionnaire...
Non, ce que je veux dire par la définition, c'est que c'est facile aujourd'hui...
D'être millionnaire, évidemment.
Quand même, mais il dit tiens, quoi.
Et les gens qui sont dans la rue, là, à un moment donné... Écoutez un petit peu, Romain.
Mais non, mais tu fais un prêt sur un appartement et tu peux avoir capitalisation
un
million.
J'aime déjà pas ce podcast.
Mais il y a une différence entre... Mais non, mais c'est comme tous ces connards qui disent « Bernard Arnault, il est milliardaire. Bah oui, bah essaie de vendre des millions d'actions. Tu verras que la dernière action que tu vends, bah, elle vaut pas le même prix que la première puisqu'il y a forcément moins d'offres que de demandes. »
Oui, mais ça
donc,
va.
Bon,
ça va aller.
Oui, ça va aller. Pour Bernard, on lui fait confiance. Mais
en tout cas, ce Bernard-là, oui.
Donc millionnaire, c'est quoi ? C'est 1 million sur le compte ? C'est
comment va Bernard Lavilliers ?
C'est en capital, c'est quoi ? C'est capitalisation ? C'est quoi, Manuel ?
T'as pas cette ref ?
C'est patrimoine ?
Bernard Laroche.
Répondez aux questions un peu.
Est-ce que Bernard Laroche était millionnaire ? Je crois pas.
Les gars, on a 10 choses. Va falloir y aller là.
On a 10 choses ?
Ouais.
Choses.
Eh bien, première chose, puisque vous n'en avez rien à foutre.
On a peut-être 10 choses, mais on a 6 choses autour de la table.
C'est vrai.
Prendre des risques calculés. Tout le monde vous dit toujours de prendre
le podcast comme ça.
Moi,
nous,
j'aimerais
nous, on
qu'on
pas autorisé.
Réponde à la question que tu as posée dans ton introduction. Je me souviens plus d'ailleurs.
C'était quelle est la définition
de
millionnaire ?
Est-ce que être millionnaire, c'est d'avoir 1 million de cash sur son compte,
oui.
Ou est-ce qu'on considère que millionnaire, c'est aussi en patrimoine, en valeur patrimoniale ?
Pour moi, c'est ce que tu as sur ton compte. Parce que si c'est ton patrimoine, tu le précises pour moi. Tu
oui,
dis
mais...
je suis millionnaire en patrimoine.
Bah du coup, tu deviens moins vite millionnaire si tu les laisses sur ton compte et que tu les investis pas.
Pour moi, t'es millionnaire si c'est sur ton compte, c'est tout.
Ah ouais ?
Ouais.
Mais non.
Pour moi, t'es millionnaire à partir du moment où tu peux perdre 1 million et ne pas changer ton vie.
Oh, ta gueule, ok,
là, t'es
d'accord.
T'es millionnaire, là, d'accord.
Bon, bah, il y en a qu'un seul autour de la table, alors,
non.
Peut-être.
Non, mais en fait, c'est très simple. Demain, je gagne à l'euro million. Je dépense 1 euro, je suis plus millionnaire si j'ai gagné 1 million. Je dépense 1 euro, je suis plus millionnaire.
Millionnaire, c'est avoir plus 1 million.
Donc, c'est sur ton compte.
Mais non, je suis pas d'accord. En valeur de patrimoine, tu peux aussi investir et avoir le mec qui a des bitcoins. C'est pas parce que c'est pas sur son compte en cash qu'il est pas millionnaire.
Non, mais
tu
d'accord,
vois.
Mais ça représente quand même de la valeur. Bon,
celui qui a un Picasso chez lui, c'est pareil, ça représente de la valeur.
Et alors ?
Oui, il peut pas te dire. Mais à partir du moment où quelqu'un veut l'acheter, le payer.
Voilà. Ça,
payer.
Je suis d'accord, bien sûr, toujours.
Ouais,
toujours.
C'est virtuel. T'es millionnaire virtuellement.
Ok.
C'est théorique.
Ok. Ça me va.
Ta maison peut valoir une somme astronomique, mais s'il n'y a personne pour l'acheter...
Si demain, la banque, je veux faire un prêt, ils vont regarder ce que je peux apporter sur mon compte. J'ai beau leur dire, non, mais après, j'ai un Mac Studio quand même. Bon, il est un peu perdu là, mais je
pense
quand même.
Non, mais si t'as un bon CDI, tu peux avoir un prêt et du coup...
Oui, mais ça aussi, c'est de l'argent, c'est pas du bien. C'est de l'argent qui va arriver sur ton compte, un CDI.
Oui, bien sûr.
C'est pas le bureau que tu utilises dans la société.
Un CDI, c'est juste le délai qu'on met pour te virer. C'est ça qui est évalué par la banque, en fait.
Est-ce que vous voulez savoir les 10 choses pour
non.
devenir millionnaire ?
Ah bah, c'était bien ce podcast, merci.
J'aimerais bien le savoir parce que
allez,
moi,
on démarre.
Perso, je le suis pas.
Bah, y a peut-être des choses que tu feras pas.
Ah, c'est même évident.
Prendre des risques calculés. Tout le monde vous dit toujours de prendre des risques. Personne ne vous dit jamais ce qu'il faut faire si ce risque se retourne contre vous. Placer toutes ses économies dans le Bitcoin n'est pas une décision intelligente. Vous devriez plutôt jouer la carte de la sécurité tout en prenant des risques. Les risques du filet de sécurité. En synthèse, c'est pas mettre tous ses yeux dans le... Ses yeux ?
Pas mettre tous ses yeux dans le même panier.
C'est pas...
Bah oui, dis. Sinon, tu vois plus rien.
Oh, vous me fatiguez.
Bah,
trop de jus de pomme. Trop de jus de pomme.
C'est pas nous.
Oui ?
Vous avez déjà fait des all-in ? Vous prenez et vous vraiment vous jouez tout sur une entreprise
Au poker, moi j'en fais beaucoup.
Ok.
Même pas en fait, même pas. Je prends même pas ce genre de risque.
Donc non, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut prendre des risques calculés.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bah oui, sinon ça s'appelle être kamikaze, hein.
Ouais, mais après, qu'est-ce que c'est un risque calculé? Parce que moi, si je calcule mal, par exemple.
Bah, c'est des probabilités.
C'est calculé quand même.
C'est des probabilités.
Mais comment tu fais?
Léo, il calcule à l'envers. Il va d'abord à l'Apple Store et après, il va voir Manuel, son agent, il va dire et là, faudrait faire des OP, hein.
Moi, c'est très simple. J'ai un conseil de vie pour être millionnaire. Je dépense tout. Et ensuite, je fais un mail à Romain et Manuel pour leur dire que j'ai besoin d'OP. Donc, j'invite tout le monde à faire ça, en vrai. Parce que c'est,
pas avec nous,
c'est
hein,
un portefeuille qui s'auto-alimente.
Ça, c'est quand t'as du talent, Léo. Faut
c'est
que tu
génial.
L'expliques.
Ah ouais, non, mais après, si les gens n'ont pas de talent aussi, que veux-tu que je leur dise?
Deuxième, ouais. Arrêtez de penser que les échecs sont des pertes. Tant de gens qui essaient de réussir dans la vie prennent un échec et pensent ensuite qu'ils sont nuls. Les échecs ne signifient pas qu'il faut s'arrêter. Les échecs signifient que vous devez tirer des leçons de ce qui vous a fait échouer et les mettre en œuvre la prochaine fois pour aller de l'avant. Mais ça... Pareil, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit où on se dit oui, mais c'est facile à dire. À faire, te prendre une claque dans la gueule et te dire tiens, je vais quand même recommencer demain, mais je vais ajuster ce paramètre-là. Eh ben, c'est un peu la même chose quand t'es en soirée et qu'il y a une personne qui te plaît, va la voir, prends-toi un gros vent et deux minutes après, va voir une autre personne. Mais c'est quand même plus difficile, quoi.
Je pense que c'est une des raisons principales qui explique que les Américains sont de meilleurs entrepreneurs que nous. C'est qu'ils valorisent beaucoup plus l'échec que nous. Européens et particulièrement peut-être français. Nous, on a tendance à quand même le voir comme une honte, alors peut-être moins dans le milieu entrepreneurial, mais en général, on refuse beaucoup l'échec, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment les premiers trucs qu'on te raconte.
Bah, ça a même plus de valeur que les réussites.
Ouais, parce qu'effectivement, c'est par-dessus les échecs, c'est à partir des échecs que tu construis des réussites.
Comment tu gères, Manuel, un échec? T'as un truc qui t'arrive vraiment dans la gueule et tout, tu sais que t'as vraiment perdu du temps sur un sujet, ça marche pas du tout, et même peut-être un peu de capital. Tu l'analyses comment? Tu rebondis comment? Comment est-ce que t'en tires réellement quelque chose?
Déjà, j'essaye de le couper le plus vite possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, bon, ça va pas marcher, il faut radicalement... Il faut pas traîner dans sa décision, en fait. Ce qui coûte cher, c'est l'atermoiement. Hésiter, pas savoir, faire un peu ça, mais pas trop ça... te retrouver entre deux stratégies, tu vois, un truc pas clair. Parce qu'au bout d'un moment, t'as des conclusions qui sont pas plus claires que tes décisions. Donc à partir du moment où tu vois qu'un truc ne marche pas, il faut le tuer le plus vite possible pour en faire naître un autre. Ça fait du mal à ton ego,
de fou,
mais ça fait du bien à ta réalité.
Toi, Léo, t'as déjà vécu un échec, par exemple en...
Jamais. Question suivante.
D'accord.
Non, dis-moi.
T'as des vidéos où tu sais par exemple pourquoi elles ont moins bien fonctionné, ou tu te dis quand tu les revois, putain, j'aurais peut-être dû appuyer ce truc là, je sais que ça aurait mieux fonctionné, ou...
Ouais, je tire la conclusion tout de suite et je passe à autre chose. C'est très simple, je déteste m'attarder sur des échecs. Je comprends ce que je peux en comprendre, je tire la leçon que je peux tirer, et après c'est pas grave. Je n'avais pas prévu que ce soit ma dernière prise de parole, ma dernière action de vie, donc je tire tout de suite ce que je peux en tirer de positif, c'est-à-dire la leçon, et je passe au projet suivant. C'est dommage sur le coup, je me dis « Ah putain con, si j'avais fait différemment, ça aurait été mieux, mais en l'occurrence, je peux rien y changer, donc okay. je passe à la chose suivante. »
Et puisque vous me posez la question...
Oui.
Donc, c'est, on était au quoi? C'était le deuxième, troisième point du coup? Romain?
Oui.
Toi, t'as déjà eu des échecs ou quoi?
Oui, tous les jours, mais j'ai une grosse maladie, c'est que je les ignore presque. C'est-à-dire que parfois, c'est des vraies grosses conneries, et je suis capable 2 heures après de venir te voir et te dire « Par contre, pour demain, on peut... » Et la personne en face va se dire « Mais il est complètement con, il se rend compte quand même de la connerie monumentale qu'il vient de faire, etc. » Sauf que je suis tellement d'accord tout de suite, et je reconnais tellement tout de suite mon erreur, et ça me met tellement mal à l'aise que je me dis « Je vais surtout pas perdre une seconde de plus à penser à cette merde, j'ai compris. » Maintenant, j'avance et par contre, je la retiendrai, quoi. C'est-à-dire que je suis pas le con amnésique non plus, tu vois.
Mais qui les cumule.
Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'elle correspond bien à Manuel.
Fait beaucoup d'argent.
Manuel, tu es une boule de neige. C'est vrai. Ne cessez pas de pousser la boule de neige. Le succès est une boule de neige. Au fur et à mesure que vous réussissez, la boule de neige commence à rouler toute seule et à grossir. Ce n'est pas parce que cette boule de neige grossit d'elle-même que vous devez cesser de la pousser, combiner son élan avec force. Je trouve cette image géniale.
T'as compris, Emmanuel, t'as grossi.
Ah, ça doit être ça, tu crois ?
C'était le message, je pense.
Non, mais je trouve que ça résume parfaitement les choses que t'as entrepris, Emmanuel. C'est-à-dire qu'au début, Emmanuel, il est là, il fourre son nez partout, il veut tout faire, il veut tout comprendre. Il fait une petite boule de neige, tu vois. Et il te la fait parfaitement. Elle est lisse, elle roule bien et tout ça. Et il la pousse un petit peu et il voit si elle continue de descendre la pente, tu vois. Et à un moment donné, ça grossit. Et là, tu lèves la main, tu fais Manuel, tu peux m'aider là-dessus ? Ben non, pas tout de suite. Et puis finalement, le problème se règle tout seul. Et indirectement, Manuel est plus là pour façonner, pour pousser la boule de neige, pour qu'elle aille pas trop s'éclater la gueule contre une luge, tu vois. Mais je trouve que cette image, elle est géniale. C'est n'oubliez pas que même quand quelque chose fonctionne, ça peut toujours être amélioré, perfectionné et te remettre en question. C'est pas parce que ça fonctionne, au contraire, que tu dois plus jamais le toucher. Et je trouve ça vraiment chouette comme image. Parce que surtout quand t'as bossé pendant des années sur un sujet et que ça commence à grossir et que t'as des équipes qui bossent dessus, bah c'est surtout pas le moment de te dire « ça y est, je fous plus rien ». Soit vends ton idée, vends ta boîte et casse-toi vraiment, soit reste là pour façonner cette boule de neige, quoi. Je trouve ça cool comme image.
Bah ça implique le fait que quand tu pousse une boule de neige au début, c'est beaucoup d'efforts de ta part, et après, c'est une énergie qui s'auto-alimente. T'es pas censé être essentiel à cette poussée et à cette descente tout le long de la descente. Il y a un moment où il faut que ton activité aussi puisse tourner sans toi.
Manuel, c'est quand même le grand drame de sa vie. Vous voulez que je vous explique le grand drame de la vie de Manuel ? C'est que les gens qui travaillent vraiment avec Manuel aiment trop Manuel, et du coup l'impliquent dans des sujets où Manuel ne veut plus être.
Je suis l'exception qui confirme la règle.
Donc Manuel a passé sa vie à dire moi, la réussite, c'est que les équipes n'aient pas besoin de moi. Alors, effectivement, elles n'ont pas besoin de toi, mais elles ont envie d'être avec toi.
Oui, d'accord, ok. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait arriver à des accords.
Non, mais ça, par contre, j'ai vraiment cette question, Manuel, avec des personnalités qu'on peut beaucoup plus comprendre comme des personnalités, tu vois, comme Steve Jobs, par exemple, qui certes a créé quelque chose qui peut fonctionner sans lui, mais qui était tellement unique.
Perd de sa saveur.
Ben, comment tu fais, c'est ça, pour conserver ce truc-là ? T'es plus indispensable physiquement, de façon mécanique, mais tu portes l'âme et le projet, et comment tu fais pour continuer d'embarquer les équipes, même quand t'es plus là ?
Ben, en l'occurrence, tu fais plus, puisque t'es plus là, en fait. Donc,
c'est vrai, tu t'en branles, en fait.
Il faut juste avoir créé un truc qui est suffisamment fort pour que ça continue. Donc, il y a d'autres gens qui sont un peu dépositaires de ta vision, ta façon de voir les choses, et qui vont continuer à leur façon. C'est une autre interprétation de ce que tu as essayé de faire au début.
Ben, Steve Jobs, c'est un bon exemple. Il faut juste bien choisir ton successeur. Tim Cook était, je pense, parfait pour le succéder, parce que, évidemment, que ce n'est pas Steve Jobs et que ce n'est pas la même chose, mais il connaissait très bien Steve Jobs. Il savait comment il travaillait, il avait compris l'ADN de la marque, donc ça a perduré. Même si forcément c'est pas la même chose, ça a perduré.
Et pourtant il a été beaucoup décrié au début.
Bien sûr, oui. Et en même temps, t'imagines, tu succèdes à Steve Jobs.
Ça doit être
relou.
Tu te dis, putain, c'est le job de merde quand même. Parce que tu vas entendre pendant des années que de toute façon c'était mieux avant et que Steve est un génie.
C'est
que
pas une position facile. Hein.
Toi tu fais rien et tu ne fais que exploiter ce qu'il y avait dans les tiroirs.
En fait. C'est Mick Schumacher en Formule 1, quoi. Le pauvre, juste par le nom. C'est impossible de succéder. À Michael Schumacher, quand t'arrives et tu te dis ah, enfin.
Bah, surtout si tu fais pas de ski.
J'allais dire, lui par contre, il fait vachement bien la boule de neige.
Prochain point. N'ayez plus peur de demander de l'aide. Vous ne réussirez jamais seul. Vous pouvez y arriver pendant un bon moment, mais vous finirez par vous retrouver bloqué. C'est à ce moment-là que vous devez demander de l'aide. Trouvez des personnes qui ont déjà fait ce que vous avez fait. Ils vous diront comment aller de l'avant. Ça, c'est un truc qui se débloque à un moment. Au début, c'est ton bébé, c'est ton projet, c'est dur. Veux tout faire tout seul, etc. Et le moment où tu lèves la main et tu dis « c'est un appel intéressé, j'aurais vraiment besoin d'aide pour ça. »
Au-delà d'être ton bébé, t'as pas envie de te montrer dans la position du mec qui demande de l'aide. T'as c'est envie de montrer au monde que t'es un peu comme eux, t'es à leur niveau. Donc c'est très difficile de demander de l'aide.
Ça demande du temps de comprendre que l'orgueil ne sert à rien.
Et parfois, la personne que tu vas interroger, ça lui fait presque plaisir.
Ouais, carrément.
Le corollaire de ça, c'est la dignité. C'est important d'avoir des gens avec de la dignité. Mais avoir des gens à l'orgueil un peu boursouflé, Bon, c'est une espèce d'autorégulation, c'est bien.
Ok. Ça, on peut le... Enfin, on le travaille, on réussit à le faire quand, comment. Enfin, il y a un moment où tu dois te dire, tiens, ça, peut-être que je pourrais le faire tout seul, mais ça me prendrait tant de temps et je sais pas vraiment le faire. Enfin, tu décides quand de commencer à t'entourer?
Bah, dès le début, en fait, il faut avoir un peu de lucidité avec toi-même et te dire, bon, bah, ça, je sais bien le faire et ça, je sais pas le faire. Et dès le début, au fond de toi, tu le sais. Sauf qu'au début, il y a personne pour t'aider, donc tu fais un peu tout. Puis après, ta carrière avance, tu rencontres des gens et tu dis, ah, bah, tiens, lui, je sais qu'il est meilleur que moi là-dessus. Et cette lucidité-là et cette humilité-là fait que, a priori, tu devrais avoir des interactions positives avec cette personne en disant, bah, tu sais, moi, j'ai un mec très produit, etc. Par contre, sur le marketing ou sur le management ou sur la finance, je suis nul, j'ai besoin d'aide.
Faut juste soigner les formes. En fait, moi, j'ai jamais, je me rends compte que j'ai pas trop demandé d'aide à des gens que je connaissais pas bien. C'est toujours un peu délicat. Pourtant, sur les réseaux, il y a plein de gens que tu croises ou juste tu le follow, ils te follow en retour, etc. Mais t'oses pas trop lui demander d'aide. Quand je me fais la réflexion, j'ai jamais jugé quelqu'un qui venait me poser une question sur mon travail, etc. Parce que, comme tu le disais, effectivement, c'est souvent plutôt gratifiant que quelqu'un te demande de l'aide. Maintenant, faut soigner les formes. Je citerai pas de nom, mais une fois j'ai une youtubeuse qui m'a envoyé un message pour me dire « Ah, j'ai regardé tes vidéos, j'aime bien le son, c'est quoi ton micro ?» Et j'ai trouvé ça exceptionnel comme demande. Au moins c'était droit au but.
Léo, je pense surtout que t'as une autre façon de faire que de demander de l'aide, parce que pour le coup, t'as trop d'ego et trop d'orgueil pour dire « là j'aurais besoin d'aide », etc. Toi t'as le truc de « t'en penses quoi ?» Ça, c'est un peu plus acceptable dans le langage de Léo.
Ah ouais.
C'est dire, ah, t'as vu, regarde, j'ai fait ça et tout, t'en penses quoi? Il sait qu'au fond, c'est pas foufou et que tu vas lui dire, mais il préfère ça plutôt que te dire, j'ai fait ça, mais j'aurais besoin d'aide pour ça, ça, ça et ça.
Non, je suis pas d'accord. Je crois toujours que c'est foufou, mais je teste. Je fais beaucoup de testing. En fait, j'aime bien partir d'une base qui est mon cerveau, qui est ce que moi j'envisage, parce que je considère que c'est comme ça que fonctionne la création, en fait. Je veux pas demander aux autres ce que je devrais faire. Mais par contre, je fais énormément de tests. Je teste tout le temps avec des gens différents, chaque concept auquel je pense, etc. Et faut juste avoir l'humilité, même quand tu te considères comme créatif, etc., que c'est ton œuvre, faut avoir l'humilité d'accepter le feedback des gens et de voir ce que eux pensent. Parce que finalement, quand je propose mes vidéos aux gens, bah, c'est pas des experts de la vidéo, c'est pas des gens qui vivent dans ma tête, donc je prends le feedback de ceux qui m'entourent parce qu'effectivement ça me permet d'avoir un retour juste.
Mais je trouve,
mais je peux en témoigner, tiens.
Ah ouais,
très très souvent, Léo, on discute de sujets qui vont aboutir dans une vidéo.
Ouais.
Et en fait il y a presque sans que ça soit conscient, mais il y a une espèce de discussions autour de points de vue différents, etc. Et je pense que ça aide de raisonner à haute voix ou de jeter une balle pour voir comment elle revient, voir comment cet argument va fonctionner, etc. Et il faut accepter ça, en fait. Tu sers au raisonnement, au progrès du raisonnement.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'adore faire ça, c'est hyper important. Et souvent même, je pose des questions à des gens qui me disent toujours, mais après, moi, je suis pas expert. Je dis, bah, c'est exactement ça que je cherche, en fait. Je fais pas mes vidéos pour les experts du sujet, ils ont pas besoin de regarder ce que je fais. Ce qui m'intéresse, c'est précisément le fait que tu sois pas un expert dans ce sujet, c'est précisément de voir ta compréhension du sujet, de voir comment tu reçois ce que je t'envoie. C'est hyper important d'aller chercher ce feedback.
Par contre, on reçoit beaucoup de plaintes des parents d'enfants à la sortie des écoles, si tu pouvais les laisser tranquilles, parce qu'ils ne sont pas experts et experts de rien, je suis
d'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle qui va supprimer les emplois ?
Ça m'intéresse. Mais par contre, Léo, tu t'impliques beaucoup quand on te montre des sujets ou qu'on te partage, pour avoir déjà été dans des événements par exemple avec des marques.
Ouais.
Je sais que Léo, t'as une personne qui travaille pour la marque ou autre qui vient lui poser des questions sur le produit et autres, il va répondre de façon mais vraiment très honnête pour les aider, il va aller au fond des choses et tout ça. Et ça, ça peut donner envie quand tu le fais avec des personnes qui savent te rendre l'appareil sans que tu leur demandes. Bah, pour reprendre l'image que donne Manuel et que j'aime beaucoup, qui dit balance plein d'ascenseurs en l'air et vois ceux qui reviennent, bah, Léo, il fait ça toute la journée. Dès qu'il parle à une personne ou autre, il va se sentir obligé, sinon il se dit bah, en fait, ça sert à rien que je lui parle si je lui dis pas vraiment ce que je pense. Donc tu vas donner des feedbacks qui peuvent beaucoup aider les gens, et indirectement, sans que tu leur demandes de l'aide, les gens vont penser à toi et dire ah non, mais lui, c'est super intéressant quand tu m'as dit ça, ah, j'aimerais bien lui faire plaisir et l'amener sur ce projet ou qu'il fasse ça avec nous.
Peut-être.
Et je trouve que c'est comme ça. Bah, tu m'as jamais demandé de l'aide, par exemple. Mais pour autant, j'ai eu envie de faire des trucs avec toi et pour toi. Parce que quand je te montrais une vidéo, t'avais toujours ce truc qui faisait que c'était différent. Tu t'impliquais et tout ça. Et donc, j'ai eu envie de m'impliquer dans l'amitié, etc., qui est née. Et qui a fait que je t'ai embarqué avec moi dans des projets dans lesquels tu serais jamais allé tout seul si j'avais pas, au départ, forcé ce truc-là. Mais d'un autre côté, moi, j'aurais jamais taffé certains trucs si tu m'avais pas, tu vois, donné ces feedbacks-là. Donc, je pense que quand tu sais donner aux gens, t'as moins besoin de demander de l'aide. C'est presque naturel. Tu vas poster, pour reprendre des trucs qu'on fait actuellement, tu fais une story pour dire « Ah, putain, je galère pour faire ça ». En fait, t'as plein de gens que t'as aidé indirectement qui vont venir te dire...
Bah, le meilleur moyen de recevoir de l'aide, c'est d'en donner. Quand t'as quelque chose à apporter aux gens...
On est d'accord.
Il y a beaucoup plus de chances pour qu'on t'en renvoie. C'est pas toujours le cas. C'est d'ailleurs même plutôt rarement le cas, je pense.
C'est vrai.
Mais c'est le meilleur moyen de recevoir.
Manuel, la prochaine, elle est pour toi. Valoriser le temps plutôt que l'argent. Beaucoup de gens pensent que l'argent est l'actif le plus important. Ah bon ? En réalité, c'est le temps. Si vous voulez être riche, concentrez-vous sur le développement d'autant de sources de revenus passifs que possible. Déléguez tout ce que vous n'avez pas besoin de faire. Les systèmes sont votre ami.
C'est un peu bâtard parce que dans cet exemple, tu valorises le temps parce que le temps, c'est de l'argent. Donc ça reste une réflexion de monégasque finalement.
Oui. Bon, on est juste en train de dire que ton temps est plus important que les revenus que ça va te générer tout de suite.
Parce qu'il fait de l'argent à terme.
Oui, mais moi ce que j'entends dans cette définition, c'est ce qui a plus de valeur aujourd'hui, c'est peut-être de lire ce bouquin pour lequel tu ne seras pas payé hein, si tu le lis, mais parce que le savoir que ça va t'apporter va te permettre de débloquer de la valeur par la suite.
C'est surtout que la vie n'est pas un sprint en fait. Moi je vois des entrepreneurs qui ont 25 ans et qui me disent « Ouais, je suis en retard, j'avais prévu de faire ça et d'en être là. »
Je crois qu'on a eu cette discussion dans un podcast il n'y a pas longtemps.
Ça me fatigue, en fait.
C'est moi qui disais ça.
Ben voilà.
Je te fatigue.
Ça me fatigue, en fait.
Et moi, j'ai l'impression d'être toujours en retard, hein. Vous le savez. Hein. Alors je suis un grand pressé de la vie. Hein.
Alors que le seul à cette table qui n'a pas l'impression d'être en retard est toujours en retard.
C'est vrai.
Hein, Manuel ?
Au podcast, oui.
Le podcast, c'est à 17h30.
Ouais. Aujourd'hui, non.
Manuel arrive à 21h. Et Romain est déjà bourré, à chaque fois.
C'est vrai.
Bah, sinon, ce podcast ne pourrait pas avoir lieu.
Ouais.
Non, il faut du temps. La course, elle est avec toi, elle n'est pas avec les autres. Donc, il faut du temps. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être très exigeant avec soi. Et compréhensif avec le contexte et les autres.
Mais tu fais comment dans une époque où tu ouvres Insta et tu te compares indirectement à la personne qui a 25 ans avec qui t'étais au lycée et tu te dis « Ah oh, putain, elle a déjà une grosse voiture, elle a déjà ce truc-là. »
Tu ouvres Insta, mais t'arrêtes de te comparer.
Si t'es pas capable de pas faire cette comparaison débile, t'ouvres pas Insta. Tu supprimes Insta.
Oui, mais bon.
Et tu te concentres sur toi.
Le mec qui raisonne comme ça, il fait la même comparaison dans la rue ou je sais pas quoi. Le problème, c'est pas Insta en fait.
Bah, il est pas vrai, alors à la vie.
C'est juste qu'il faut arrêter de se comparer.
Faut juste avoir gardé à l'esprit que la majorité des entrepreneurs ont réussi tard. Il y a très peu de très grands entrepreneurs qui, à 20, 25 ans, ils avaient déjà leur boîte avec leur million. Il y en a très peu. Ça peut marcher qu'à 40, 50 ans.
Entrez en contact avec le plus grand nombre possible de personnes de valeur. Si vous êtes pauvre, vos relations compenseront. Il n'y a rien de tel que de connaître des gens, des personnes dans des secteurs différents. Ne soyez pas trop exigeant lors de votre première rencontre. Offrez-leur d'abord quelque chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais.
Mais dans les rencontres et dans le réseau, c'est l'un des premiers conseils que je donne quand il y a des jeunes qui viennent me dire « Ah, mais j'ai cette idée, je l'ai lancée, mais comment je fais pour en parler, etc. » Je dis « Mais fais chier les gens. » envoie des messages LinkedIn, envoie des messages Facebook, fais des emails, essaie de rentrer en contact avec des gens, va à des salons, montre-toi, mais montre que t'existes. Arrête de rester tout seul en disant « Ah, c'est pas encore prêt, ah ça, je vais l'améliorer. » Parle, vends ton truc avant même qu'il soit vraiment parfait. Mais sors de ta... J'adore, c'était Coluche qui disait « Si j'étais resté dans ma cuisine, personne serait venu me faire chier. » Je la trouve géniale, cette expression. C'est vraiment sort, faire chier les gens, quoi. Moi, je vois encore des gens qui me croisent et qui me disent « Ah, je me souviens de tes cartes de visite et que nous étais, c'était avec ton logo blanc, machin, ton truc. » Mais c'est marrant, mais en même temps, ça m'a aidé pour plein de trucs.
Ah bah oui, j'en suis persuadé. Je t'ai vu faire, j'étais gêné à chaque fois, mais je sais que ça t'a aidé. Ça, c'est certain.
Très bon conseil.
Mais juste, on n'avait pas la même personnalité et c'est bien qu'on se soit associé à ce moment-là, même si ça me gênait.
Coluche, il a fini par sortir de la route d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il a fait. Oui, c'est vrai.
Prochain point, faites appel. Alors, ça, c'est très pragmatique. Faites appel à un bon comptable. Votre comptable va soit vous épuiser, soit vous sauver. Il est très important d'en choisir un bon. Les impôts ne sont pas une partie de plaisir. Déménager dans un paradis fiscal est également un point positif. Alors, ça, c'est pas mon conseil. Hein.
Oula.
Mais c'est donné. Donc, je le give et après, vous en faites ce que vous voulez.
Je le give,
oui, le give.
C'est du gifting. Ouais. You know? On n'accepte pas le gifting.
Est-ce qu'on ferait pas un podcast, le top 10 des paradis fiscaux avec des conseils et
quel
tout,
enfer!
Avec peut-être des,
avec
des,
Oussama Amar.
Des sites pour.
On invite Tiomi aussi.
De quoi?
De?
Ah. On fait ça, non? Je vais demander à ChatGPT de l'écrire.
Non, sur le comptable, vous êtes d'accord par contre. Ça fait partie d'engager des postes qui sont quand même importants.
Oui.
T'engages pas ton beau-père parce qu'il est sympa et que tu crois qu'il a été comptable dans une autre vie en fait, tu vois?
Non.
C'est, voilà, on est d'accord.
Un comptable, c'est pas qu'un con derrière une table.
C'est pas parfois ce que tu leur as dit, Emmanuel.
Mais je leur dis des fois quand ils sont mauvais. Parce qu'un comptable ne doit pas que compter. Il doit te protéger aussi de tes propres idées ou instincts à certains moments.
Tes propres démons.
Et en même temps, il doit comprendre la stratégie de la boîte et le projet et trouver des solutions pour mettre en œuvre ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. À un moment, la finance, je ne vais pas attaquer la comptabilité en particulier, mais on va dire la finance au sens large, est au service du métier et pas le contraire. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles la finance prend le pouvoir et torture le métier, qui finit par se contorsionner en disant « Ah non, mais la finance, elle nous impose ci, elle nous impose ça, donc on ne peut pas faire autrement, nanani, nanana. » Et ça devient con, en fait. La finance est là pour dire bon ben là ça c'est des sujets indispensables, on peut pas faire autrement, donc faites l'effort de rentrer dans ces prérequis là et en même temps doit être créative elle-même, elle doit trouver des solutions, des idées qui permettent au métier, au projet de s'exprimer, voire des financements. Et souvent on demande souvent à la finance de compter mais pas d'être créative alors qu'ils ont des idées, hein.
Ah ouais,
ben bien sûr, moi j'ai toujours eu la chance d'avoir comme associé un partenaire qui est très finance, mais aussi très créatif, très métier, qui considère que la finance est au service du projet d'entreprise. C'est très agréable, très confortable.
Sur certains sujets, c'est frustrant pour avoir vécu certaines choses. C'est, parfois, tu as des idées, tu te dis bah, « c'est bon, on va acheter ça, on va faire ça et tout ». Non, mais alors pourquoi tu ferais pas ça comme ça, puis tu inclurais ce partenariat-là, puis tu paierais rien, mais ça développerait quand même ton image, et tu fais bah, « je fais pas ça parce que ça va prendre du temps, en fait ». Oui, mais à la fin, tu auras gagné beaucoup plus que si tu devais acheter ce que tu voulais faire, etc. Donc, d'un point de vue, effectivement, créatif et pur métier, c'est top. Faut bien s'entourer. Et encore une fois, ça va avec le fait de, si ça fonctionne pas, bah, virez-les vite, quoi. Arrêtez de haïr les riches. La jalousie est une malédiction. Beaucoup de gens détestent ceux qui sont là où ils veulent être. Vous feriez bien mieux d'apprendre d'eux. Ils ont ce que vous voulez. Alors, qui de mieux pour vous conseiller ?
J'ai un peu de mal à imaginer que les gens qui nous écoutent détestent les riches, mais je suis d'accord avec ce point.
Ben, en fait, je pense que ce point, il faut le prendre dans le sens où quand une personne t'inspire, etc., il vaut mieux passer du temps à lui poser des questions et à l'écouter plutôt que d'essayer... t'as un peu servi...
Moi, je suis riche en jus de pomme, là.
Là, t'es riche,
Manuel,
c'est
toi de la même manière, par contre, parce que tu nous as tous les deux servi. Manuel, je boirai jamais tout ça.
Je donne un exemple très concret. Parfois, tu as des jeunes que je rencontre et avec qui je passe 15-20 minutes. Tu vois, je me dis, putain, c'est long. Et en fait, ils ont passé 15-20 minutes à défendre leur projet, à m'expliquer à quel point c'était génial et tout. Ils ont fait leur speech qu'ils font 20 fois. ils m'ont pas posé une question. Et je me dis, c'est trop con, parce que peut-être que de mon humble expérience, si tu m'avais posé une ou deux questions, bah, ça fait peut-être 10 ans que je fais certaines choses que toi, t'as envie de faire maintenant. Bah, t'aurais juste pu écouter peut-être une réponse qui t'aurait apporté, tu vois, et fait gagner du temps, ou peut-être apporté des choses. Et c'est la première chose que j'essaie de faire parfois quand je rencontre une personne qui m'inspire ou autre, ou qui a envie de me poser à l'inverse beaucoup de questions. J'essaie de la faire parler elle, parce que je me dis, non, mais attends, là, j'ai des choses à apprendre d'elle, quoi.
Et on a changé de point, ou on est toujours sur les riches, là?
Ben, c'est sur la richesse que la personne peut t'apporter en face. C'est juste que quand t'as une personne qui t'inspire et qui a de la richesse à t'apporter.
Mais dans ce cas-là, tu parles de quoi? Tu parles d'argent ou
les deux, si tu veux. Peu importe.
Pour moi, c'est pas du tout ce que dit le point. Le point dit pas du tout détester ceux qui sont riches en expérience et en connaissance. C'est purement monétaire.
Le magazine, le point.
Le point. C'est purement monétaire. Si vous détestez les riches parce qu'ils sont riches, bah écoute, c'est pas grave, le devenez pas. Si vous êtes allergique.
Moi, je suis d'accord. Et en France, on a un vrai problème avec le succès et le niveau d'enrichissement qui va avec le succès.
Il y a plein de gens qui disent « Ah non, mais c'est pas la France,
Parce que, à la rigueur, on peut tolérer que des gens soient populaires.
Mais on veut pas savoir qu'ils sont riches.
Mais alors riches, faudrait quand même pas pousser non plus, en fait. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de beaucoup d'artistes.
Ouais.
Qui... ne sont pas du tout haïs, ils sont même adulés pour leur popularité, etc. Simplement, les gens oublient que grâce à cette popularité, ils sont aussi riches.
Je peux un exemple.
Il y a d'autres entrepreneurs qui, eux, ne sont pas très populaires au sens connu, etc. Et qui, eux, sont très riches. Mmh. Et on le sait parce que souvent, c'est public, en fait. Ils sont donc, il y a des classements, leurs boîtes... communiquent leurs chiffres, etc. Et eux, ils sont haïs. Alors qu'en réalité, ils sont peut-être... Tu prends une grosse PME française ou un établissement de taille intermédiaire ou je sais pas quoi. Le patron de cette boîte est pas forcément plus riche que le premier des rappeurs. Mais bon, il a l'air cool, il est populaire. On oublie de dire qu'il gagne aussi beaucoup d'argent.
Ouais.
Et ça a l'air de pas poser de problème.
Il y a une exception qui m'intrigue beaucoup, moi, c'est les streamers.
Ah, tu me fais peur.
Je me suis toujours fait la réflexion que les streamers, pour les plus gros, ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Et malgré ça, t'as quand même des gens qui ont très très peu de moyens et qui leur donnent de l'argent tous les mois, qui leur font des dons, qui s'abonnent, etc. Et je trouve ça exceptionnel. Dans un pays où apparemment on déteste vraiment les riches, etc.
T'imagines, touche pas à mon poste avec des dons pour Cyril Hanouna. Genre, c'est vraiment ça. Hein. C'est la même chose, hein, pour que vous compreniez, c'est la même chose.
Et c'est très cool pour eux. Et je pense qu'ils le méritent parce que ça veut dire que ces gens qui leur donnent de l'argent alors qu'ils ont pas beaucoup de moyens et que eux sont déjà quand même plutôt bien, ça veut dire que simplement ils considèrent que le divertissement qu'ils leur apportent vaut cette rémunération-là. Donc c'est hyper cool, mais je trouve que c'est une espèce de forme d'exception à cette règle-là.
Et ces gens ne recevront pas les torrents de haine qui se déversent sur des mecs qui dirigent les boîtes ou sur des grands patrons qui, eux, à certains moments, quand même, drivent aussi beaucoup de valeur pour leur pays. Moi, j'ai toujours du mal au fait que on incendie certains de nos patrons qui créent de la richesse dans le pays. On parlait de Bernard Arnault, mais on pourrait citer Xavier Niel, qui a été reçu dans une commission à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps.
Halluciné, ça.
Et à qui un député dit...
C'est pas assez cher.
C'est pas assez cher.
Concurrence déloyale.
Un euro, c'est pas assez cher.
C'est incroyable.
Et le mec répond en disant, bah attendez, je suis désolé, faites votre boulot, mais enfin, le prix de tout augmente. Nous, on rend du pouvoir d'achat aux Français en n'étant pas cher et on refuse d'augmenter nos prix. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Et voilà, je trouve que ça montre une espèce de déconnexion, mais l'exemple que tu citais sur les streamers, il est valable, suffit d'aller dans une salle de concert.
Ouais.
Tu vois des gens qui ont acheté une place, qui est chère, qui font l'effort d'aller acheter des goodies ou du merchandising qui est vendu cher pour avoir un souvenir. Et tout ça, c'est juste parce qu'il y a une certaine forme d'admiration ou d'adulation de l'artiste et ils sont heureux de le faire.
Alors que les footballeurs, c'est exactement la même chose, mais ça choque tout le monde.
Non, ça choque ceux qui n'aiment pas le foot.
Oui, mais du coup, ça choque généralement, ça choque quand même beaucoup de gens.
Parce que c'est pareil, tu vas te battre pour avoir un autographe, un truc et tout.
C'est une prestation, sauf que tu remplaces la salle de concert par un stade avec de l'herbe. Bien sûr.
Dernier point.
Ouais.
Vous êtes sûr? Dernier point pour comment devenir millionnaire.
Du coup, j'hésite, tu nous fais peur.
Pour moi, ça, c'est la plus importante.
Moi, j'en ai un, c'est jouer à l'Euromillion, hein, si je peux l'intégrer là maintenant tout de suite.
Et c'est celle qui va vous prendre une vie pour le faire bien. Et même quand vous allez crever, vous le ferez toujours pas par excellence, on va dire.
Trouver le point G.
Apprenez la psychologie humaine. T'es pas loin, Léo. Vous apprendrez comment les gens pensent et agissent. Vous apprendrez à vendre. La vente, c'est l'art d'être à l'aise avec les gens et de les comprendre. Si vous essayez de vendre quoi que ce soit, vous devez apprendre l'art des relations humaines. Si vous êtes doué pour les relations humaines, vous pourrez gagner beaucoup d'argent.
C'est là-dedans que Manuel est le plus fort.
Mais mec, ça c'est, il est exceptionnel.
Tout le reste, il est assez mauvais en termes d'hygiène, etc. Mais là-dedans, il est hyper fort.
Il y a des livres, par contre, que Manuel m'a conseillé, que j'ai commencé. Tous les livres de Robert Greene.
Influence et manipulation.
Par exemple, les 48 lois du pouvoir, l'excellence.
Comment se faire des amis.
Voilà, il y en a plein.
Manuel, t'en as d'autres?
Là, maintenant, ça fait déjà pas mal de choses à lire, mais oui, il y en a plein d'autres.
Tom,
en fait.
Tom et Nana.
Lisez Freud.
Ah.
Oh là, ça c'est plus relou. Hein.
Ça c'est, hein, ça nous fait un peu chier,
ah
ça.
Ah ouais, Freud, tu conseillerais pour ça?
Bah, pour comprendre les êtres humains, c'est pas mal.
Oh, ouais, putain. Ouais, non, mais là, c'est quand même.
C'est chiant.
Faut lire les autres avant, je pense.
Il y a d'autres choses à lire. Hein,
ouais.
Pas démarrer par ça. Hein.
Commencez pas par Freud.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que lui, il a démarré par ça.
Ah ouais?
Ouais.
Oui, mais t'avais 6 ans et demi, ça n'a rien à voir. C'était oui. Il y a hyper longtemps.
Non, j'avais 11 ans.
Tu vois l'état du mec.
Bon, ben voilà. J'espère que vous allez pouvoir devenir millionnaire. Tenez-nous informés. Si on peut prendre des parts à un moment, c'est cool. Hein.
En tout cas, on vous le souhaite.
Oui. Et on vous applaudira.
Mais j'espère que je le serai avant vous.
À très vite.
La bise.
Salut.